Guidé à lire, les coups de cœur de Laurence, des rencontres avec des auteurs, des lecteurs et pas que. Le deuxième vendredi du mois à 11h sur nos ondes. Bonjour, nous nous retrouvons pour cette émission du mois de février avec des auteurs principalement de jeunesse et qui font partie de la sélection du CRILJ. L'interview attendue, la deuxième partie de cette interview de Chris Gardaz. Et puis, je reviendrai sur un auteur que nous avons interviewé pour vous au Salon du Livre d'Attignat, donc le livre « Il n'y a pas Internet au paradis » de Gaël Pingot. Mais le premier livre de la sélection dont je vais vous parler se nomme « La couleur des différences » de Cindy Héricourt. C'est un petit livre qui raconte l'histoire de Freddy, un petit cochon qui subit des moqueries de la part d'un petit lapin, Tom. Tom n'a pas d'amis car il est désagréable avec tout le monde. Tous les personnages qu'ils ont ensuite rencontrés ont des difficultés, des différences. Tom va finir par comprendre qu'il fait de la peine et en acceptant de changer, il va trouver des amis. Donc c'est un petit livre plein de valeurs, des illustrations un peu naïves, un texte intéressant par tant de harcèlement. Il me semble que c'est vraiment d'actualité. Donc je vais vous lire un petit extrait de « La couleur des différences » de Cindy Héricourt. C'est alors qu'intervient Shiner, un petit raton laveur, caché derrière un arbre en train de les observer. « Moi, un jour, on m'a dit que j'avais un trouble de l'attention. C'est pour ça qu'il m'est souvent difficile d'être concentré, de ne pas faire de fautes d'orthographe, de lecture et aussi de faire du sport. À l'école, j'avais une dame qui m'aidait à mon bureau pour faire comme mes camarades et grâce à elle et eux, je me suis toujours senti soutenu et heureux. » Chacun l'écoutait attentivement et Tom, le jeune lapin, comprit qu'il faisait du chagrin. Voilà, c'était un extrait donc de « La couleur des différences » de Cindy Héricourt. Vous êtes sur Radio B et vous écoutez « Idée à lire ». Je vais maintenant vous parler d'un autre petit livre pour des plus grands, mais des enfants de 7-8 ans. Monsieur Germain de Claire Alberghi et Élodie Passico. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un rat qui n'est absolument pas content parce qu'il est dérangé par une nouvelle occupante, sa voisine au-dessus de lui est professeur de danse. Donc, bien évidemment, il entend tous les cours, c'est agaçant pour lui. On fait des rapprochements aussi avec les petits rats de l'opéra. Bref, ce livre est plein d'humour et comporte de très très jolies illustrations qui semblent inspirées de Sarah Kay. C'est un bonheur pour les yeux, une histoire originale et bien tournée. Bref, un très bon moment en perspective avec votre enfant. Donc je vous lis un petit passage de Monsieur Germain de Claire Alberghi et Élodie Passico. C'était un rat cultivé qui passait son temps à lire et à écouter de la grande musique. Il mangeait à heure fixe, faisait ses petites courses au supermarché et remplissait son frigidaire de plats à base de gruyère. Son plat préféré était le sorbet au camembert. Il avait un gros compte bancaire, mais à cause de son mauvais caractère, il était resté célibataire. Sa vie était tranquille, même s'il vivait seul, il était heureux. Mais depuis quelque temps, ce rat galeux et dédaigneux n'était pas satisfait. Son lustre se mettait à bouger et il entendait des trottinements au plafond, comme si des hordes de souris couraient partout. Notre rat était obligé de se servir de son balai pour signifier qu'il était exaspéré, ou il se saisissait de son téléphone et se plaignait du bruit. En effet, une école de danse avait élu domicile à l'étage supérieur. On pouvait lire sur la porte d'entrée « Entrée de danse classique, direction Mademoiselle Chadavoski ». Voilà, donc c'était un extrait de Monsieur Germain, de Claire Alberghi et Élodie Passico. Je vais profiter d'un petit moment pour vous présenter une artiste que j'apprécie beaucoup, Angèle, avec son « Balance ton quoi ».
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
C'était donc un titre d'Angèle, Balance ton quoi. Je vais maintenant vous parler de la théorie de l'élastique d'Anne-Françoise de Bruyne. C'est un livre de la sélection du Krilge. Et il nous parle de Clara qui vit en Belgique avec sa mère. Elle ne connaît pas son père, qui travaille dans des organisations humanitaires. Alors qu'elle fait la connaissance d'Anis, un jeune garçon réfugié afghan, elle décide de retrouver son père. Son grand-père lui a parlé d'un certain monsieur Little Guy, un nain américain qui aide à retrouver les choses, les gens égarés. Elle lui écrit, mais elle décide aussi et surtout de prendre son destin en main. C'est un petit bijou de la littérature de jeunesse, sur l'absence du père, sur la situation des migrants. Par moments, j'ai pensé au très beau film Les cerfs volants de Kaboul et j'ai vraiment adoré ce livre. Je vous lis un extrait donc, de la théorie de l'élastique d'Anne-Françoise de Bruyne qui évoque le parcours d'Anis. Un matin, très tôt, ma mère nous a réveillés. Mon petit frère, mes deux petites sœurs et moi.
Chut, pas un bruit.
Et nous sommes partis. Il y eut un blanc. La voix d'Anis trembla un peu. Jamais il n'avait osé repenser à tout ça, se retourner en arrière. Leur départ. Un souvenir bien enfoui, au fond de lui, un arrachement qu'il n'avait raconté à personne. Cela s'était passé plus d'un an et demi auparavant. Il avait alors 13 ans. Jamais encore il n'était allé plus loin que ces collines à cerf-volant. Nous sommes partis parce que notre vie était devenue trop dangereuse. Nous avons tout laissé derrière nous, poursuivit-il courageusement, sans dire au revoir à personne. Comment ça, tout? Pourquoi sans dire au revoir? Pourquoi trop dangereuse? Tu étais triste? Les élèves entraient sur la pointe des pieds dans son histoire. Ce qu'Anis avait à leur raconter était si différent, si nouveau. Tu avais peur? Non, parce que je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait, j'étais même un peu excitée. Le fameux très long voyage très loin d'ici dont mon père m'avait parlé, qu'avec moi en secret, allait enfin commencer. La veille, après l'école, avec l'aide de Madame Anne, Anis avait préparé son exposé. Elle avait fini par le convaincre. « Partager ce que tu as vécu, ce sera comme déposer une grosse valise », l'avait-elle encouragée. « Après, je suis persuadée que ce sera plus facile pour toi de regarder vers l'avant. Tu te sentiras plus léger. » Il était tendu mais serein. Il lui avait fait confiance. Il avait franchi le pas. Ensemble, ils avaient photocopié, agrandi et suspendu des cartes sur lesquelles Anis avait tracé au fluo son parcours depuis sa maison jusqu'à Bruxelles. Il avait aidé à repasser au marqueur les contours de chacun des pays traversés. Le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie, la France, la Belgique. Il avait aussi tracé en rouge la frontière de l'Europe entre la Turquie et la Grèce. Depuis plusieurs années, au pouvoir, les talibans terrorisaient la capitale afghane. Le père d'Anis, qui dans sa jeunesse avait étudié au lycée français de Kaboul, savait bien sûr lire et écrire, mais il pratiquait également le français et l'anglais. Sous le régime taliban, être une personne instruite était très dangereux. Il considérait la connaissance comme une menace. Ces gens-là finissaient emprisonnés et exécutés. On les pendait sur la place publique. D'autres s'enfuyaient et disparaissaient. Les voisins, les amis, la famille étaient interrogés, menacés. Tous avaient peur. Tout le monde se méfiait de tout le monde parce que tous voulaient sauver leur peau. Son père était obsédé par l'idée de fuir. Lui aussi. L'Europe, répétait-il. Il fallait l'atteindre pour être en sécurité. Et si jamais il était pris avant leur départ, il devrait y aller quand même, sans lui. Voilà, c'était un extrait de La théorie de l'élastique d'Anne-Françoise de Bruyne, ouvrage donc de la sélection du Krige de cette année-là. Nous allons maintenant écouter l'interview, la deuxième partie de l'interview de Chris Gardaz. Elle va nous parler de la littérature fantasy. Elle va nous évoquer sa façon aussi de concevoir ses romans. Est-ce qu'elle part des personnages ou de l'histoire? Elle va nous parler de la lecture, du rapport avec les éditeurs et puis de son rapport avec les libraires. Est-ce que ce sont les histoires qui arrivent en premier ou les personnages?
C'est une idée. Et, l'idée, elle est d'abord peut-être dans l'histoire quand même, dans une scène, même si pour le 3, je parlais d'un prénom tout à l'heure, mais ce prénom m'évoquait déjà des scènes, m'évoquait déjà des histoires. Donc pour moi, il y a les histoires, je crée les personnages, parce que dans cette histoire, il y a déjà les personnages, et je ne commence jamais, puisqu'on parlait tout à l'heure de brouillon et d'écrire directement sur l'ordinateur, je ne commence jamais à écrire si je n'ai pas le début et la fin de mon histoire. Je crois qu'on en avait discuté entre nous déjà une fois. Mais c'est essentiel, il m'est arrivé d'écrire la fin d'abord. Je veux savoir où je vais. Par contre, je ne veux surtout pas savoir comment j'y vais. Ça, c'est très important. Parce que on peut s'ennuyer souvent dans notre vie. On peut avoir des périodes, plus que d'autres, on s'ennuie. Dans notre travail, ça peut arriver. Dans d'autres domaines. Je veux garder cette liberté que j'ai avec l'écriture et ce non-ennui, c'est-à-dire que je ne m'ennuie jamais quand j'écris, jamais. Et donc je ne veux pas savoir comment je vais aller, là où je veux aller, parce que je veux découvrir au fur et à mesure, je veux vivre avec mes personnages, je veux être surprise aussi. Et puis parfois d'une rencontre va finalement surgir une scène que je n'avais pas envisagée, parce que les rencontres m'inspirent beaucoup, je crois que c'est même l'essentiel en fait. Et du coup, je peux être très très surprise, comme par la mort du personnage dont on parlait tout à l'heure, moi-même surprise par ce qui va se passer. Mais c'est quand même d'abord l'histoire qui est dans ma tête.
J'ai l'impression aussi que votre travail d'écrivain, c'est le travail d'une créatrice de liens.
Alors lien, je pense que c'est un mot qui est juste, c'est très beau comme expression, créatrice de liens. Effectivement, il y a des liens dans le livre, hein, dans l'écriture, entre les personnages. Et puis je dirais qu'après, il y a aussi le lien qu'on fait avec les lecteurs et comment eux vont pouvoir se raccrocher à telle ou telle situation, à tel ou tel personnage. Et j'espère que voilà, certains se retrouvent, ça leur parle, ça les fait réagir, ça les... peut-être qu'ils sont émus parfois aussi. Voilà. Mais oui, créatrice de liens, ça me plaît. Merci.
Non, j'aime beaucoup cette expression-là parce que, comment dire, être créatrice de liens, c'est faire des rencontres, on va dire, in vivo avec des gens. Vous recréez finalement des gens à partir de vos rencontres.
Oui.
Vous les amenez à avoir une vie, donc à créer des liens entre eux aussi, et vous partagez tout cela avec votre famille. Et puis in extenso, vous partagez cela avec vos lecteurs. Donc là, on est sur une toile digne d'une toile, on va dire, numérique. Donc vous êtes vraiment créatrice de liens, il me semble, en tout cas, c'est l'image que j'ai de votre travail.
D'accord, oui. Après, c'est vrai que moi, ça m'intéresse aussi beaucoup, parler de toile numérique. En fait, cette toile-là, je l'ai tissée aussi, alors plus là, par rapport à l'écriture à proprement parler, dans les romans jeunesse, parce que j'ai envoyé des fils d'un monde à l'autre, parce que c'est un domaine qui, enfin, un sujet qui m'intéresse, les mondes éventuellement parallèles à notre Terre. Et donc il y avait plein de fils comme ça entre des mondes et des personnages que je retrouvais, qui se croisaient, qui se retrouvaient d'un monde à l'autre. Donc à ce moment-là, j'ai dû tisser, créer énormément de liens entre eux, et ça m'a demandé une énergie folle, mais par contre c'était passionnant. Et là, pour les polars, j'ai l'impression aussi de tisser des liens à l'intérieur des polars, parce que j'aime l'enquête. Ce que j'écris ne correspondra pas forcément à des lecteurs qui aiment ce qui est très gore. Il n'y a pas de violence gratuite. Par contre, j'aime bien tout le cheminement de l'enquête, de la pensée, des rencontres entre les personnages et tout. Et il y a aussi effectivement énormément de liens entre eux. Et après, pour revenir au lecteur, je suis heureuse quand je reçois un petit message de lecteur qui me dit que justement il a cherché à renouer les liens, à retisser un peu cette toile lui aussi au fil de sa lecture. Donc ça, c'est chouette.
Quand vous parlez de monde parallèle, hein, au début là, de ce que vous venez nous dire, moi ça me fait penser à Pierre Bottero.
Oui, un auteur. Oui.
Parce que ce côté monde parallèle, là, donc j'ai lu le premier tome des Voyageurs des Miroirs.
Oui.
Et j'ai retrouvé cette impression-là, ce frère et cette sœur qui partent, qui sont happés par le miroir avec leur chat et qui découvrent un autre monde avec des sorcières. Donc on reprend un petit peu...
Je suis très flattée que vous parliez de Pierre Bottero, donc, parce que c'est un auteur formidable qui a disparu trop tôt,
oui,
malheureusement.
Oui.
Donc voilà, et en fait, quand j'ai commencé à écrire Les Voyageurs des Miroirs, je ne lisais pas moi-même de fantastique, mais j'ai appris à découvrir certains auteurs que je trouve formidables. Bon, bah, lui, c'est vraiment quand même la panacée, donc voilà.
Mais j'ai vu que dans Les Voyageurs des Miroirs, il y avait un langage... Vous l'avez créé, ce langage ?
Ah oui, ça, je me suis amusée, oui. En fait, vous avez lu le premier tome, donc La forêt des trolls. Il y a donc deux autres tomes. La malédiction de la lune bleue, le secret du cyclope qui ne devrait pas tarder à sortir. Et ces trois petits tomes, en fait, constituaient à l'origine un seul tome qui s'appelait Les Voyageurs des Miroirs. Donc maintenant, c'est une petite série de trois. Et puis ensuite, il y avait, j'ai écrit un autre roman, Les Chats d'Argent, puis un autre encore, qui s'appelle Les Enfants des Géants. Donc, si la série se poursuivait, ça ferait 9 petits tomes, sachant bien entendu que chaque petit roman constitue une aventure à part entière. Mais disons que sur ces 9 tomes, j'ai dû créer, c'est un peu prétentieux, mais j'ai inventé plusieurs mondes, j'en ai inventé 7. Et ces mondes que j'ai inventés, donc à chaque fois, je leur ai attribué une langue. Donc j'ai inventé aussi une petite langue. Alors pas un dictionnaire entier, je vous avoue que j'y ai pensé, que c'est dans une boîte, ça, par contre, je me rappelle bien. Que si j'avais beaucoup de temps, j'adorerais faire ça. Voilà, mais bon, c'est pas envisagé dans les prochaines années. Et donc chaque monde a sa langue particulière, et il fallait absolument que cette langue corresponde au monde avec toutes ses caractéristiques. Par exemple, dans la langue féerique, puisqu'il y a un monde qui revient, donc celui de la malédiction de la lune bleue, c'est un monde féerique. Alors, ce ne sont pas des fées gnangnans du tout. C'est un monde magique, mais qui est quand même, qui a certaines caractéristiques avec des fées qui sont bossues. Donc, j'ai gardé des petits clins d'œil aux fées, mais j'ai ajouté aussi des anti-clichés, on va dire. Et dans la langue donc, que j'ai inventée, eh bien, en fait, la plupart des mots, pas tous, mais ont deux L, pour des raisons évidentes. Voilà.
D'accord. Moi, ça me fait penser aussi à un autre maître de la fantasy. C'est Tolkien.
Tolkien, oui. Mm. J'ai rencontré une fois une lectrice qui me disait qu'elle apprenait, je ne sais plus où, elle apprenait la langue elfique. C'est fabuleux. C'est
fabuleux. Oui, non, mais ouais. Parce que c'était tellement construit chez Tolkien, c'est impressionnant. Il y a d'ailleurs plusieurs langages, hein, je crois.
Alors,
que...
par contre, moi, je n'ai jamais réussi à... à finir.
Moi aussi,
oui. J'avais commencé par Bilbo. Je n'ai pas fini. J'ai repris trois fois et du coup, je sais que Tolkien est un auteur formidable et pour avoir discuté avec certains de ses grands fans, je connais pas mal de choses sur Tolkien. Mais par contre, moi-même, je ne peux pas dire que je suis une lectrice de Tolkien. Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'est extrêmement dense. Je pense que, faut vraiment être totalement immergé dedans. Et peut-être que le processus d'écriture vous coupe un petit peu de vos lectures parfois.
Parfois, oui. J'étais une grande lectrice. Je pouvais lire jusqu'à un livre par jour. Depuis que j'écris, je lis un peu moins par manque de temps. Alors, ça me coupe aussi peut-être parce que je pense énormément, je suis habitée par, par tout ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis parfois, quand je suis bloquée, ben j'ai envie de trouver comment poursuivre, etc. Mais malgré tout, j'ai besoin de lire. Je ne pense pas qu'un auteur puisse ne pas être lecteur. Peut-être, peut-être que là, il y a un auteur qui va m'entendre et qui va m'en dire sur sa chaise. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de lire. On se construit grâce à nos lectures, on s'enrichit grâce à nos lectures. Donc, c'est un petit regret que j'ai parfois du temps que je consacre à l'écriture, c'est qu'effectivement, j'en consacre moins à la lecture. Mais je continue à lire.
Mais il me semble que, outre... l'aspect création de liens avec des gens, vous créez aussi des liens avec d'autres œuvres. Parce que je vois les œuvres qui nous entourent dans votre lieu, là.
Oui.
C'est des ouvrages aussi un peu spécifiques.
Oui, oui, oui. Alors après, là, vous êtes ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ma maison. Il y a une petite bibliothèque dans chaque pièce, en fait. Je n'ai pas une immense bibliothèque dans une pièce, mais dans toutes les pièces, je tiens. Enfin, c'est pas que je tiens, j'ai besoin. J'ai besoin qu'il y ait des livres, en fait. Donc, il y a des auteurs, forcément, des auteurs fétiches. Bon, là, il y a Saint-Exupéry, forcément, qui apparaît sur le mur. Donc, je vais faire des petits clins d'œil dans mes livres parce qu'ils sont avec moi. Bon, il y a Victor Hugo qui est un peu partout. Katia Cerc, donc Cerc, on avait dit, une des îles sur laquelle Victor Hugo s'est exilé. Et puis d'autres qui m'accompagnent pour leur écriture, comme Makin, dont on a parlé aussi. Muguette, la tante d'Eliot, s'appelle Makin, donc je le trouve absolument extraordinaire, cet auteur, dans sa plume, sachant qu'en plus, ce n'est pas un auteur à l'origine de langue française. Enfin, moi, je suis absolument épatée. Je lis aussi beaucoup de romans en fonction du thème qui m'intéresse sur le moment. Donc oui, je suis entourée de tous ces livres-là. Puis je lis aussi quand même beaucoup de polars, puisque je suis en ce moment dans un processus d'écriture de romans policiers depuis 3 ans. Et j'aime ce genre-là. Donc je découvre aussi, je découvre ou redécouvre certains auteurs de polars.
Ouais. Moi qui n'étais pas du tout polar, c'est vrai que vous m'avez donné le goût.
Ah, super.
Au dernier salon du livre d'Attigna, j'ai acheté quelques polars, je me suis risquée sur d'autres auteurs.
il faut.
Voilà, j'avais pris le risque avec vous et je n'ai pas été déçue, donc je reste confiante.
Alors, je suis contente parce que j'ai d'autres personnes qui m'ont dit ça, et en particulier le co-crime dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est devenu un ami. Et il m'a dit voilà, que grâce à... Dans le silence des oiseaux, au départ, il avait retrouvé le goût de lire. Et puis là, encore récemment, en lisant donc Montapuscrit, parce que maintenant, il est devenu aussi un correcteur vraiment long cours. Et donc, il lisait aussi d'autres auteurs de polar. Alors, il a un auteur fétiche. Mais donc, moi, je suis ravie quoi, quand j'entends ça. Et je suis ravie que les gens aillent lire. Et puis, si mon livre peut donner l'envie de découvrir d'autres auteurs du même genre, ben, formidable, ça, je suis super contente. Là, moi, j'ai découvert récemment Béa Paris, c'était une auteure que je ne connaissais pas, je l'ai découverte au printemps, depuis, bon, voilà, j'ai lu deux de ses romans, puis d'autres auteurs au fil aussi des rencontres que je peux faire moi-même sur les salons. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on n'aura jamais assez de toute une vie pour,
non,
pour découvrir.
Mais je crois que vous avez trouvé le moyen, en fait, quelque part, de toujours vous nourrir. Vous avez cette soif d'en apprendre toujours
plus.
Ah
oui, je suis très curieuse.
Et votre
oui.
écriture vous permet, finalement, de vous nourrir intellectuellement, vous n'étancherez jamais cette soif
non,
d'apprendre.
Non. Le temps qui occupe une place importante dans mes romans, mm-hmm. Le temps, c'est effectivement ce qui... Pas comment dire, pas ce qui m'angoisse, ce qui m'intéresse, me passionne à la fois, mais ce qui me manquera, ce qui nous manquera à tous certainement, mm-hmm. parce que je crois qu'on... Enfin, pour moi, hein, on est peut-être sur Terre pour deux raisons. C'est peut-être apprendre, justement, et puis aimer, mon avis. C'est en tout cas les deux pôles de ma vie, à moi. Mmh. Voilà, et apprendre, eh ben, on ne peut jamais cesser d'apprendre, cesser de savoir. Et tellement de domaines, enfin, on ne connaît rien. On est... Enfin, moi, je vois en faisant mes recherches, je suis inculte dans plein de domaines, quoi. Alors, ça me passionne de chercher, de savoir, de comprendre, je m'intéresse. Mais, mon Dieu, je finirai, de toute façon, je mourrai inculte, c'est sûr. Donc, voilà, mais je continue, oui, je suis curieuse.
Oui, plus on apprend, je crois, effectivement, plus on se rend compte qu'on ne sait rien.
Oui, c'est possible.
Ouais. C'est assez vertigineux. Il y a quelque chose qui m'évoque, justement, aussi le vertige... C'est votre miroir.
Miroir derrière, d'accord. Oui. Parce que j'en ai deux, mais tout simple. Alors, ce miroir-là m'a été offert par une amie, parce que j'ai de la chance d'avoir un groupe d'amis, voilà, qui me soutient à la fois de façon personnelle et à la fois dans mon écriture. Donc, ouais, je les remercie aussi. Là, c'est vrai que je remercie ma famille, les gens que j'étais amenée à rencontrer, les lecteurs et mes proches qui m'ont bien soutenue récemment. Cette amie m'a fabriqué un miroir de sorcière. Donc ce miroir celle qui a tout fait, hein, ce miroir de sorcière, il est un peu bombé,
Vous voyez,
particulier quand on se voit le temps. Voilà. Et donc il rappelle les miroirs empruntés par mes héros jeunesse, Rosendy Jersey. Et en fait, moi, ce miroir de sorcière, à la base, je l'avais créé en référence au tableau des époux Arnolfini de Jan van Eyck, dans lequel il y a un miroir comme ça, un miroir convexe. Et dans lequel on voit le reflet du peintre lui-même.
Oui, voilà. Tout à fait.
Donc c'est pour ça, le miroir que vous voyez là.
Oui, pour moi ça m'évoque vraiment ce tableau.
Il vient de ce tableau oui, qu'on peut trouver à Londres, que j'ai eu la chance de voir il y a 4 ans, qui était tout petit en fait. Hein. Mais,
pour vous, le miroir, il représente quoi?
Oula.
C'est une question très très vaste. Hein. C'est,
Oui, alors il représente quoi? Déjà, il représente un objet dans lequel je n'aime pas me voir. Je n'aime pas... non. Ce miroir, pour moi, un objet donc, qui ne me plaît pas au départ, objet banal du quotidien, du coup, quand je fais comme tout le monde, je me brosse les dents, etc., j'imaginais des histoires derrière le miroir. Et c'est pour ça que j'ai imaginé donc les voyageurs des miroirs, parce que je voulais partir au-delà de mon aspect. Je pense qu'on a tous quelque part plusieurs peut-être personnalités. Bon, on revient à la schizophrénie, je vais bientôt être internée. On a peut-être plusieurs histoires à vivre, on a plusieurs chemins possibles, plusieurs destins. Ça, c'est un thème qui revient aussi dans tous mes romans jeunesse et adulte, polar. Donc, ce thème du destin, de la prédestination ou pas, des choix qu'on peut faire, ça, ce sera un débat passionnant, quoi. Le choix, quel choix avons-nous dans notre vie? Sommes-nous maîtres de nos choix ou victimes de nos choix? Enfin, voilà, il y a plein de choses par rapport à ça. Donc, ce miroir, il me renvoyait vraiment, enfin, à tout ça. En plus, c'est vrai que quelque part dans la littérature jeunesse, je ne l'ai pas choisi pour ça. J'ai réalisé après, c'est quand même un élément essentiel. Hein, on retrouve dans plusieurs œuvres de littérature jeunesse, il est symbolique, mais il reflète, je pense, tous nos mois possibles. Et dans Le silence des oiseaux, j'ai fait un petit clin d'œil, donc
oui.
Voilà, au miroir, par le titre de la librairie Salanté de Katia, mon héroïne, donc au miroir gourmand. Parce que je suis gourmande aussi.
Oui, il y a une atmosphère particulière qui se dégage de ce lieu dans votre livre. Et bon, quand on évoque dans Le silence des oiseaux, je pense particulièrement à
au
ce
miroir
lieu
gourmand.
Chaleureux.
Oui, ouais. Chaleureux, c'est comme ça que je l'ai voulu. Donc, parfait.
Alors que, c'est, pour moi, ce sont deux termes, miroir gourmand, un peu antithétiques. Parce qu'il y a le miroir, bon, la surface convexe ici de votre miroir, il y a un côté doux au fait que c'est bombé. Et même si ça déforme, quelque part, c'est dans le côté difforme du reflet qui a un intérêt.
Oui, et de toute façon, même le regard qu'on porte sur nous-mêmes, que ce soit dans le miroir ou autre, il est déformé.
Oui,
donc,
c'est vrai. Alors que gourmand, quelque part, c'est un côté tendre qui s'oppose à ce côté un peu de glace, voyez, du miroir. Donc je trouve ça assez amusant d'avoir associé ces deux termes.
Ces deux termes.
Oui. Alors le gourmand, peut-être pour le côté salonté, puis le miroir pour se trouver
pour
dans
tout,
les livres.
Voilà, tout le reste, oui. D'ailleurs, elle le dit, Katia, à un moment donné, elle en parle. Elliot lui pose la question et... ce qu'elle répond à ce moment-là pour les miroirs, c'est un peu ce que je pense, en fait. Et gourmand, oui, c'est par rapport au salon de thé, par rapport aussi aux gourmandises que pourrait nous apporter la vie, pourquoi pas, et justement, toutes ces vies qu'on pourrait vivre en plongeant derrière un miroir, et une vie qui pourrait être très gourmande d'aventure, de plaisir, de sucré.
Donc en gros, quelque part, vous conjurez le sort du miroir qui tend juste à montrer le reflet,
oui.
C'est-à-dire tout ce qui est à la surface.
Oui.
Et enfin, moi, je trouve qu'il y a un miroir, personnellement, j'arrive jamais à me voir dans l'intégralité du reflet, on ne voit que certains détails.
Complètement. Donc du coup, il y a des infinis, des possibles infinis ou des infinis possibles, dans le sens que vous voulez, mais... important de reprendre quand même ce thème dans le polar pour moi, parce que...
Qu'est-ce que vous attendez de façon très très concrète d'un éditeur?
D'un éditeur, alors déjà, de prime abord, c'est vraiment l'échange. J'attends qu'on puisse discuter en toute confiance, en toute liberté. J'attends qu'ils mettent le doigt sur ce qui ne va pas dans mes livres. Je pense que la phase de correction, alors la phase de correction avec l'éditeur, parce que bien évidemment, avant, il y a eu des corrections et des corrections et des corrections et des corrections de ma part. Et puis dans les autres boîtes que vous voyez là-bas, il y a plein de tapuscrits, là sont mes correcteurs personnels, donc qui me renvoient... leurs avis, leurs impressions, et donc j'attends de l'éditeur ou de l'éditrice donc vraiment un échange pointu qui peut me laisser peut-être harassée ou parfois sur les dents, parce que non, quand même, là, il exagère un peu, mais très riche, en fait, très très riche, pour affiner mon texte, pour l'améliorer, et lui, il a un regard professionnel sur les textes qu'il va proposer au lecteur, Et je crois que ça, c'est vraiment le plus important. Donc, oui, c'est vraiment ces deux pôles-là que j'attends au départ. Et je ne pourrais pas travailler si c'était pas, si je n'avais pas confiance en la personne. Ensuite, donc là, c'est un domaine qui est un peu plus commercial. Malheureusement, on est quand même tenu. Il y a plusieurs aspects. Hein, dans l'activité d'auteur, on est quand même tenu à un moment donné, si on veut que notre roman soit lu, ben on est tenu de le diffuser, de le partager. Et donc là, ben, il faut que l'éditeur puisse quand même envoyer les livres dans les librairies, s'occuper d'approvisionner les rayons, éventuellement de faire un ou deux petits articles. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là qui, moi, au départ, ne me correspond pas, ne m'intéresse pas. Parce que j'étais auto-éditée pour mon premier roman, Les Voyageurs des Miroirs. J'ai d'abord été auto-éditée. Et en fait, c'était quelque chose qui. Non, ça, autant j'adore la phase dont on parlait tout à l'heure, écriture et échange avec les lecteurs et les salons et les dédicaces, tout ça, oui. Mais je ne suis pas du tout douée avec les chiffres et tout cet aspect plus commercial. Mais je crois que justement, ça fait aussi partie du métier d'éditeur.
Très bien. Les voyageurs des miroirs, vous dites donc vous étiez auto-édité. Donc c'est un livre que vous avez écrit pour vos enfants.
Oui.
Ouais.
Oui. C'est un livre, je ne pensais pas qu'il sortirait de ma cuisine, en fait.
Et donc les deux personnages, il y a une jeune fille et un jeune garçon, c'est vraiment vos enfants.
Alors oui, enfin, disons que je ne dirais plus maintenant ce sont mes enfants, parce qu'il a quand même fallu faire la distinction à un moment donné, et pour moi et pour eux, c'est important. Mais disons que c'est eux qui ont choisi les prénoms, ce sont des aventures, je leur ai fait vivre. Enfin, mes personnages en fonction aussi de certaines choses par rapport à mes enfants. Et puis, alors, bon là, je spoil un petit peu, mais bon, tant pis. Disons qu'à un moment donné, lors du troisième passage dans un miroir de sorcière, l'une des faiblesses que l'on a, donc, se transforme en force. Et ça, c'était pour donner de la force à mes enfants.
D'accord, très bien. Donc il y a aussi une dimension presque thérapeutique.
Oui, mais de toute façon, se soigner avec les livres. Enfin, moi,
Oui.
c'est vrai que vous n'êtes pas la première à me faire cette remarque, pas forcément avec ces mots-là, mais on m'a déjà dit, mais en fait, à chaque question, à chaque problème, tu proposes un livre. Voilà. Et c'est vrai que oui, ma solution, ce sont les livres, en fait. Je propose des livres. Et moi, quand je vais pas bien dans ma vie, hein, je crois je suis comme tout le monde, hein, il y a des périodes où ça va, des périodes où ça va moins bien. Alors, j'ai besoin des amis dont je vous parlais tout à l'heure, des personnes que j'aime, des proches, mais j'ai besoin des livres parce que les livres, bah, ils resteront nos amis toute notre vie, quoi. On trouve toujours, et je ne sais pas, j'ai l'impression que parfois même, on va prendre le livre qu'il faut au moment où il le faut, et paf, on va avoir la phrase qui nous parle. Donc, oui, moi je.
Oui, mais parce que quand on est aussi lecteur, je veux dire depuis toujours quelque part, on a aussi cette possibilité, sans que ça soit vraiment véritablement désagréable, de se dire, ben non, ce livre-là, j'arrête la lecture pour l'instant parce qu'il n'est pas fait pour moi pour l'instant.
Ça
On
arrive,
peut y revenir aussi, mais
oui.
ça c'est parce qu'on a un entraînement de lecture.
Peut-être, oui. Du coup, je fonctionne en tant que lectrice, donc je ne sais pas forcément comment vont fonctionner d'autres personnes qui lisent moins. Après, moi, je suis ravie quand j'entends même des adultes qui disent oh, j'ai commencé à lire, c'est génial, c'est super. Mais oui, je pense que le livre peut être thérapeutique et à certains moments dans ce que j'écris, oui, il y a une sorte de message. Oui, peut-être thérapeutique, mais ça, c'est important, la force qu'on peut trouver en nous. Et enfin, que ce soit dans les romans jeunesse ou dans les polars. Mes personnages polars, Elliot par exemple, bon, Elliot, il a survécu à la mort de sa fille unique. C'est quelqu'un qui doit trouver quand même une grande force en lui pour continuer à se lever tous les jours et continuer à vivre malgré tout. L'assassin a lui vécu des choses terribles aussi. Maintenant, ils n'ont pas pris le même cheminement. Donc ça m'intéresse aussi, ça, de voir comment du coup des personnages là, mais comment certaines personnes qu'on va retrouver dans la vraie vie vont affronter les épreuves de la vie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se battre pour continuer, pour lutter? Est-ce qu'ils vont se battre contre eux-mêmes? Ou est-ce qu'à l'inverse, ils vont se battre contre les autres et déraper? Et voilà.
Oui, laisser parler leur zone d'ombre.
Eh oui, c'est ça. On en a tous. Mm-hmm. On en est plus ou moins conscients. Mais que fait-on face à ces zones d'ombre? Que fait-on face à nos zones de désespoir? Que ferions-nous?
J'avais envie de parler aussi, parce que quand on parle de thérapie avec le livre, ça me fait aussi penser au rôle très très important des libraires.
Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé d'auto-édition, j'ai pensé, puis après j'ai oublié. Si mon premier livre, donc, qu'au départ j'avais auto-édité à 100 exemplaires, en étant paniquée, hein, vraiment paniquée, parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Ça va être dans mon grenier, justement, à prendre la poussière, il va y avoir les souris qui vont venir dedans, enfin bon, bref. Si j'ai pu vendre quelques exemplaires et donc en réimprimer d'autres et après trouver un éditeur et puis là du coup trouver un autre éditeur, c'est grâce aux libraires, c'est grâce aux gens qui sont autour de moi, bien sûr, mais quand même les libraires ont joué un rôle. On parlait des rencontres, mais voilà, sans rencontres, qu'est-ce qu'on fait? Rien, rien du tout. Moi j'ai eu énormément de chance, j'ai rencontré des libraires formidables qui m'ont accueillie à bras ouverts, alors que voilà, je suis qu'une petite auteure, je venais avec mon petit bouquin comme ça, auto-édité, sans regard éditorial justement dessus, donc forcément avec beaucoup plus de coquilles après que quand même que dans l'édition. Et voilà, je vais en citer quelques-uns, je m'excuse pour ceux que je vais oublier, mais par exemple Corinne de Poligny qui a été formidable dès le départ. Il y a la librairie Mandragore, il y avait Anne qui a pris du temps pour moi, qui a passé une heure quand même de son temps de libraire à me dire, alors là, j'ai aimé ça, ça, il faudrait peut-être modifier. C'est incroyable. Laetitia qui m'a fait revenir aussi après, Gilles ici à Tournu. Voilà, il y en a plusieurs, Anthony à Mâcon, et donc grâce à eux, ah oui, j'oublie aussi Marilyn David, Aurore de Grangier, moi bon, je vais certainement en oublier, mais bon, bref, ils sont super, ils m'ont porté, et ils m'ont, enfin, si j'échoue, je me dis je suis nulle, et donc ils m'ont dit, non mais il faut écrire, c'est pas parce que tu as eu 5 lettres, enfin vous avez eu, à l'époque on se voyait, vous avez eu 5 lettres de refus, qu'il faut se dire, non c'est fini. Enfin, c'était pas fini puisque je l'avais écrit, mais du coup j'ai retenté quand même, et c'est grâce à eux que j'ai retenté d'écrire, que j'ai osé aussi pour les polars, voilà, contacter des éditeurs grâce aux libraires. Et c'est pour ça que Katia, l'héroïne dans Le silence des oiseaux, est libraire. C'est un métier que j'adore, que j'aurais aimé faire, et c'est aussi en remerciement aux libraires qui m'ont porté, puis qui portent la littérature et d'autres auteurs. Donc voilà.
C'était donc la deuxième partie de notre interview de Chris Gardaz. Le mois prochain, nous entendrons la suite. Mais pour l'instant, revenons à notre sélection du mois avec un livre écrit par une jeune auteure, Une année là-bas. Il s'agit de l'histoire de December Dan, une jeune fille de 17 ans environ. Elle est agent secret, formée pour les missions les plus périlleuses. Mais son père a décidé qu'elle ferait une année de lycée comme tous les jeunes de son âge. L'arrivée au lycée, la confrontation avec des élèves qui dictent leurs lois l'amèneront finalement à ne pas laisser ce pour quoi elle est faite trop longtemps. Hein. Voilà, donc... Les thématiques abordées dans ce livre, ce sont bien évidemment l'action, l'amour, l'amitié, et il y a beaucoup d'humour. C'est un très bon début pour ce jeune auteur. Je vais donc vous lire un petit passage d'Une année là-bas de Aïssa GFL. Des caresses dans mes cheveux me réveillent. Je me retournais en bougonnant doucement et je vis mon père assis tranquillement sur mon lit. Il me fit un petit sourire, sauf que je lui tournais le dos tout en lui demandant de sortir d'une voix pâteuse. « Tu es dans mon espace, » soulignai-je. « C'est ma maison, donc ton espace est le mien. » Je roulais des yeux, super réplique des parents. « Je ferai changer la serrure, le contrai-je. » Il rit doucement. J'étais sérieuse et il savait très bien que je pouvais le faire. Il continua malgré tout de jouer avec mes boucles comme lorsque j'étais petite. Ça faisait une éternité qu'il n'avait pas fait ça. Et sincèrement, c'était réconfortant et ça faisait du bien.
J'avais envie de me rendormir. Je ne me pensais pas aussi exténuée. « Tu as grandi si vite, » dit-il doucement. Je décidai de le regarder, je le rassurai comme je l'avais fait un nombre incalculable de fois depuis que maman nous avait quittés. « Je suis la même, papa. Rien ne change. » Il n'avait pas tort dans un sens, j'avais acquis la maturité assez tôt. Du moins, je parle de la maturité en tant qu'agent, car je dois l'admettre, parfois, non souvent, je peux avoir un comportement abject envers les gens. Sauf que dans le monde des agents, aucun enfant n'a le choix. Il faut être mature rapidement. C'est soit ça, soit tu te fais tuer. Il continue à ses caresses comme si j'avais 5 ans. « Tu comprendras lorsque tu auras un enfant, » poursuivit-il. « Ça m'étonnerait, pouffais-je. Moi, un enfant, et puis quoi encore ? Je n'aimais pas trop ce type d'individu avec la morvonnée, toujours en train de piailler pour un oui ou pour un non. Oui, oui, j'avais été un jour un enfant aussi, mais les enfants, très peu pour moi. Ça me rebutait plus qu'autre chose. Je souris malgré tout, même s'il m'énervait, je ne pouvais pas lui en vouloir une éternité. » Voilà, c'était un extrait d'Une année là-bas de Eissa, GFL. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale en continuant d'écouter l'album d'Angèle avec un titre « Les matins » qui évoque donc les larmes et nous y reviendrons par la suite.
Doux réveil au goût amer et des saints cauchemars. Était un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi, j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer, c'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres et je dormirai. Ou je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
Angèle fait des pleurs une chanson, Gaëlle Pingot, elle, en fait un texte tout en dentelle dans « Il n'y a pas Internet au paradis ». J'avais interviewé cet auteur donc au salon d'Attigna et j'ai pris le temps de la lecture de cet ouvrage qui est une petite merveille. Aliénor se retrouve veuve prématurément. Le livre va donc nous faire vivre les semaines qui suivent le drame. Alex, son mari, s'est donné la mort, broyé par la machine sociale, hein, ou plutôt de l'entreprise, victime de la gestion cruelle d'un chef. Chaque chapitre se clôt sur une annonce de radio où les personnages réagissent. L'écriture montre une grande sensibilité entre la relation de l'humain face à donc la machine qui est l'entreprise et la sphère intime. Ça sonne juste, c'est profond. On va lâcher à regret Aliénor alors qu'elle reprend pied, comme si le lecteur avait été l'invisible soutien de cette femme face au drame de sa vie. Donc je vais vous lire un passage d'Il n'y a pas Internet au paradis, passage en fait qui débute cet ouvrage. Voilà, c'est fait. Ça s'est plutôt bien passé. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'en suis contente, mais enfin c'est fait. Et ça s'est plutôt bien passé, je l'ai déjà dit, je crois. On imagine ça insurmontable, mais réussir un enterrement est finalement plutôt facile. Il suffit d'un cadavre, d'un cercueil, d'un trou et pour faire bonne mesure de quelques croque-morts et de 2-3 proches. Le reste coule tout seul, ou presque. Personne ne songe à faire le con lors de la cérémonie, ça file droit, rien qui dépasse, tête longue jusque par terre et larmes de circonstance. Le tour est joué. Le cousin incontrôlable qui devient particulièrement pénible quand il a trop bu, il réserve ses envolées lyriques pour les mariages ou les anniversaires. Il a tout de même un peu d'éducation. Alors voilà, c'est fait, sans anicroche et sans imprévu, de la belle ouvrage, tu es enterré. Corollaire, je suis veuve. Jusque-là, rien que de très logique. Tu me taquinais souvent sur mon côté binaire, peut-être n'avais-tu pas complètement tort. J'ai choisi la terre. Il fallait trancher, cimetière ou crématorium. Avais-tu un avis sur cette question ? Aucune idée. Ce ne sont pas des choses qui se disent spontanément dans les échanges amoureux. Au fait, ma chérie, tu aimerais combien d'enfants, toi ? Tu préfères la panna cotta ou le tiramisu ? Pour notre prochain week-end en tête-à-tête, Prague ou Barcelone ? Elles te plaisent, mes nouvelles chaussures ? Et toi, mon amour, tu voudrais t'enterrer ou incinérer quand tu te suicideras ? Non, j'avoue, cette discussion-là, nous ne l'avons jamais eue. La terre ou le feu ? Bien ma veine, tu étais balance, signe d'air, il aurait fallu que tu t'évapores, que tu te sublimes plus exactement, que tes cellules se dispersent dans le ciel comme ça. Tu es poussière et tu redeviendras poussière, foutaise. Tu es poussière et tu redeviendras souffle d'air, brise d'été, alizée tropicale ou mistral chantant. Seulement, les pompes funèbres ne savent pas faire ça des corps qu'on leur confie. Petits joueurs, ils sont petits joueurs, ils resteront. Voilà, c'était un extrait d'Il n'y a pas Internet au paradis de Gaëlle Pingot. La sélection pour ce mois de février est terminée. On se retrouvera le mois prochain avec la suite et la fin de l'interview de Chris Gardaz et une nouvelle sélection. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon mois de lecture. Retrouvez l'émission sur notre site radio-b.fr puisque l'émission est podcastée et sinon en rediffusion dimanche. À bientôt !